Radio Méga,
Patrick Chompré,
Christian Sauty.
Bonjour, bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine, tout de suite sur RFI, avec vous, Caroline Nachowski, bonjour.
Bonjour Patrick.
Après la tempête qui a balayé l'ouest de la France le week-end dernier, les satellites d'observation de la Terre travaillent actuellement. Quel est leur rôle? On en parle dans quelques instants. Bienvenue sur la Terre, un monde où les parasites et picassiettes de tout poil sont partout. On va rencontrer les auteurs du livre La malédiction du cloporte, des souris et des hommes, même préférence olfactive. C'est une étude de l'INSERM que l'on découvrira. Et puis l'invité scientifique multifacette à 12h10, Jean Jouzel, glaciologue mondialement connu, vice-président du GIEC. Et voilà, également dans Microméga, les vampires existent. Existent-ils vraiment scientifiquement? On le verra. Et retour en arrière, il y a 100 ans, la maîtrise du froid. Microméga. Mais tout de suite avec vous, Caroline, quelques infos que nous avons triées spécialement pour vous dans l'infosphère.
Comment expliquer que la dépression soit en constante augmentation dans nos sociétés? Une neurobiologiste et psychologue américaine apporte dans le mensuel Cerveau et Psycho une surprenante réponse. C'est l'abus de confort et le manque d'effort, notamment manuel, qui pourrait être à l'origine de cette recrudescence des dépressions. Notre cerveau humain, qui est le même que celui des hommes préhistoriques, a en effet été programmé pour ressentir un profond sentiment de satisfaction lorsque nos efforts physiques produisent un résultat tangible. Autrement dit, quand nous faisons travailler nos muscles, notre corps et surtout nos mains pour produire quelque chose, notre cerveau est vachement content et nous envoie plein d'endorphines qui nous rendent tout joyeux. Tandis que l'homo economicus moderne, c'est-à-dire nous, vautré sur le canapé et qui se contente d'appuyer sur le bouton de la télécommande ou de la machine à laver, eh bien il déprime, c'est comme ça. Alors plutôt que de se bourrer d'antidépresseurs, il fera mieux au choix de se mettre au tricot, d'aller faire un tour à vélo ou de planter des haricots.
Je vais donc m'employer à faire travailler mes petites mains. Une autre, on en a parlé déjà en fin de semaine sur notre antenne, mais je n'y résiste pas car c'est révélateur de la façon dont la science avance. Cela fait des années que l'on nous dit que la nicotine a des propriétés addictives et que c'est à cause de cette substance qu'il est si difficile d'arrêter de fumer. Eh bien, les chercheurs de l'INSERM et de l'université Pierre et Marie Curie viennent de montrer qu'en fait, ça ne serait pas la nicotine seule qui serait responsable de la dépendance, mais l'association de cette substance avec d'autres composants du tabac, les fameux IMAO. Alors vous vouliez arrêter de fumer, vous êtes donné les moyens, vous avez utilisé des patchs et ça n'a pas marché, comme 80% des utilisateurs. Et c'est normal, puisque donc au début, eh bien ils font leur effet. Mais au bout de quelques semaines, la nicotine seule ne suffit plus comme produit de substitution. Tout cela devrait donc déboucher sur une nouvelle stratégie de sevrage. En attendant, il nous reste la bonne vieille volonté et là, c'est pas gagné d'avance.
En Inde, maintenant, le débat fait rage au centre de recherche en biotechnologie du Kerala autour de la question des OGM. Des chercheurs ont en effet réussi à modifier génétiquement deux plantes traditionnellement utilisées dans la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, et à multiplier ainsi par deux leurs principes actifs particulièrement efficaces, notamment dans le traitement du cancer. Mais peut-on réellement faire de l'ayurveda génétiquement modifié? Les principes mêmes de cette médecine séculaire sont-ils solubles dans l'ADN? Officiellement en tout cas, les OGM sont interdits dans l'Ayurveda. Cependant, le département agricole de l'université du Kerala a commencé à produire en plein champ ces deux plantes génétiquement modifiées, le Brahmi et le Karyat, c'est leur nom, mais uniquement à destination des laboratoires de médecine classique, non ayurvédique, qui utilisent également ces plantes thérapeutiques. Et pour l'Ayurveda, eh bien l'OGM attendra.
L'impact des graves intempéries qui se sont abattues dans le sud-ouest de la France ces derniers jours doit maintenant être évalué avec la plus grande précision possible pour établir le coût global de la tempête, ce qui va déterminer par la suite le montant de l'aide aux victimes tant par les assurances que par l'État, Christian Sauty.
Il va donc falloir s'appuyer non seulement sur la situation sol, la situation immédiate, mais également sur la vision globale, aérienne, spatiale, qui permet une approche à la fois plus large, mais aussi plus fine de l'impact de la catastrophe. Laurent Maggiori, bonjour.
Bonjour.
Laurent Maggiori, vous êtes le directeur des opérations à Spot Image. Alors, on a appris récemment que des appareils militaires, des Mirage F1 de la base de Reims, ont réalisé des reconnaissances aériennes sur la Gironde, sur les Landes et sur le Lot-et-Garonne. On peut également supposer que vos satellites d'observation de la Terre, Spot, ont été également mobilisés pour imager les zones sinistrées.
Oui, absolument. Il existe un protocole qui s'appelle la Charte internationale, au titre duquel le CNES, l'Agence spatiale française, peut nous demander d'intervenir dans des cas de catastrophes naturelles pour utiliser les ressources satellites également pour prendre des images des zones touchées.
Alors vos satellites tournent à environ 700-800 km d'altitude au-dessus de la Terre. Ils tournent dans un plan polaire à peu près. Quel est le temps de réaction entre lorsqu'on avalise une mission, c'est-à-dire lorsqu'on dit OK, il va regarder, et l'instant où il réalise la mission.
S'agissant de nos satellites, en fait, un satellite à lui tout seul peut accéder à n'importe quel point de la Terre environ tous les deux jours. Donc on peut au maximum mettre environ 48 heures avec un satellite pour imager une zone de la Terre, n'importe quelle zone. En ce qui concerne Spot Image, on a la chance d'opérer trois satellites, une constellation de satellites Spot. Donc le phasage de chacun de ces trois satellites nous permet en fait d'accéder à n'importe quel point de la Terre toutes les 24 heures. Donc entre le moment où véritablement on est déclenché, le moment où on prépare le plan de travail du satellite et le moment où on va acquérir l'image, on va dire qu'au maximum, il peut se passer une vingtaine d'heures.
Laurent Maggiori, qui traite les images et finalement pour le compte de qui? Parce que c'est là pour l'instant, on parle catastrophe, mais qui va traiter les images? Est-ce que ce sont des professionnels des catastrophes naturelles ou ce sont des spécialistes du traitement de l'image satellitaire?
Je dirais qu'on trouve les deux niveaux. Tout d'abord, il y a un premier traitement de l'image pour la rendre, on va dire, lisible et surtout la géolocaliser, c'est-à-dire la positionner correctement par rapport à la position au sol. Et ça, c'est un niveau de traitement qui est fait par nos ateliers à Toulouse. La plupart de ces traitements sont d'ailleurs automatisés maintenant, utilisent des modèles numériques de terrain extrêmement précis qui permettent de géoréférencer les images. Et ensuite, ces images sont fournies donc à des gens qui sont beaucoup plus des professionnels du traitement des catastrophes naturelles, qui vont ensuite pouvoir bâtir des plans d'intervention, des personnels sur place ou éventuellement évaluer les dégâts sur des zones extrêmement larges.
Vous êtes vous-même à Spot Image en liaison directe justement avec les utilisateurs de vos images?
Dans le cas des catastrophes naturelles, les agences spatiales sont souvent des relais et donc on n'est pas directement en contact avec les utilisateurs finaux. Dans la plupart de nos autres activités, c'est effectivement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à être en contact avec les utilisateurs directs et finaux pour pouvoir au mieux répondre à leurs besoins. On va dire que le pilotage des acquisitions par un satellite comporte tellement de paramètres que plus on est près du besoin final et plus on est efficace dans la réponse qu'on peut leur apporter.
Laurent Maggiori, je le rappelle, vous êtes le directeur des opérations de Spot Image. Vous nous avez dit que vous avez trois satellites Spot opérationnels qui tournent actuellement autour de la Terre. Quels sont les types de missions que vous avez confiées à ces satellites? L'observation de la Terre, c'est vaste quand même.
Ça devient surtout un sujet d'utilisation de plus en plus varié. On va dire que les premières applications ont commencé pour des utilisations gouvernementales ou paragouvernementales, de sécurité civile, de cartographie. Maintenant, nous allons de plus en plus vers l'occupation des sols, vers la planification aussi urbaine. Pour beaucoup de clients qui sont dans des pays hors Europe, puisqu'actuellement nous réalisons plus de 80% de notre chiffre d'affaires hors Europe, les missions qu'on peut confier à ces satellites vont de l'acquisition de cibles extrêmement précises lorsqu'on a des problématiques de soit de catastrophes naturelles, soit on va dire de renseignement ou de sécurité, et jusqu'à des acquisitions de couverture énormes de pays complets. En ce moment, nous sommes en train d'acquérir pour de grands comptes quasiment la surface complète de la Terre avec des images à 2,50 m de résolution et en couleur naturelle, ce qui donne des mosaïques qui couvrent complètement les pays avec un grand niveau de précision.
Google Earth a ouvert la voie en quelque sorte et vous travaillez également dans ce domaine-là de l'imagerie globale de la Terre?
Je crois que toute personne qui regarde les copyrights sur Google Earth verra que le nom de Spot Image est cité. Donc effectivement, Google Earth a rendu surtout l'utilisation de l'imagerie spatiale familier à des millions de gens qui n'étaient pas véritablement des professionnels de l'imagerie. l'imagerie spatiale. Et je pense que par certains côtés, Google Earth a contribué au déploiement et à l'émergence de nouveaux utilisateurs de l'imagerie spatiale, oui.
Laurent Maggiori, bon, il y a beaucoup de satellites commerciaux dans cette niche aujourd'hui, l'observation de la Terre, et puis les Américains font quand même très fort avec des résolutions de l'ordre du mètre. Comment vous vous placez, vous, avec les spots ?
Oh, c'est une évolution permanente, donc on a la chance d'un point de vue marché d'être dans une espèce de niche. La capacité d'un satellite se mesure pas uniquement par la résolution, qui en l'occurrence pour nos satellites est de 2,50 m, mais aussi par la surface qu'on est capable d'acquérir et de couvrir. Un satellite comme Spot 5 est capable d'acquérir environ 2,5 millions de kilomètres carrés par jour, puisque chaque image faite par le satellite est une image qui fait 60 km par 60 km, 3600 km carrés. Si on compare avec nos concurrents américains, on va dire qu'ils sont dans un segment de marché un petit peu différent, qui est celui de la très haute résolution, avec des images effectivement dont le détail le plus fin qu'on peut voir est plutôt de l'ordre du mètre, voire meilleur que le mètre maintenant. Mais par contre, chaque image acquise est plutôt de l'ordre de 10 à 15 km par 10 à 15 km. Donc les surfaces que ces satellites-là sont capables d'acquérir sont beaucoup plus petites. Les problématiques qui sont adressées sont un peu différentes. Ensuite, on a effectivement un foisonnement de concurrents potentiels, des pays émergents qui se dotent de leur propre capacité d'acquisition, qui par contre ont quand même encore beaucoup de chemin à faire pour offrir un vrai service de haut niveau à une clientèle qui est plutôt exigeante dans ces domaines-là.
Qui sont-ils ?
On a des accords particuliers avec des gens qui sont à Taïwan, des gens qui sont en Thaïlande, des gens qui sont en Corée. L'Inde, depuis longtemps, a un programme spatial très bien établi et effectivement, après s'être concentré sur ses activités propres, commence à avoir une activité commerciale. Vous avez également certains pays d'Afrique qui commencent à s'intéresser de près à l'utilisation de ressources satellites pour contrôler un peu mieux leur territoire. Nos principaux concurrents sont vraiment américains, dans un domaine qui est un peu différent, qui est celui de la très haute résolution. C'est un domaine dans lequel nous allons aller très rapidement, puisque le CNES a lancé depuis bientôt 5 ans maintenant un programme qui s'appelle Pléiade et qui va donner naissance à deux satellites, une constellation encore de satellites dont la résolution sera de 50 cm. Et ces deux satellites seront confiés à Spotimage pour leur utilisation commerciale.
Une dernière question, c'est rentable de travailler dans l'imagerie satellitaire ? Vous faites des gros bénéfices, des juteux profits, comme on pourrait dire ?
Pour l'instant, ça n'est pas nous qui payons véritablement et finançons les satellites, puisque c'est le CNES qui nous en confie l'opération. Derrière, l'activité commerciale aval de la donnée et du service, c'est une activité qui s'avère de plus en plus rentable. Ça fait plusieurs années que Spotimage obtient des résultats avec des marges supérieures à 20 à 25% dans son activité, donc un volume de chiffre d'affaires qui est en croissance très forte. Cependant, ce qui nous attend, c'est maintenant la suite avec EADS et Astrium, où nous allons devoir nous-mêmes financer une partie de la composante spatiale et donc investir pour avoir nos propres satellites. Et
donc c'est en quelque sorte une privatisation ?
C'est une privatisation qui a eu lieu au mois de juillet 2008, puisque le CNES a cédé les 41% des parts qu'il avait dans le Spotimage à EADS, qui en possédait déjà 41%, ce qui fait que maintenant nous faisons partie de la grande maison EADS à 82%, et que EADS va nous accompagner dans un futur programme qui s'appelle AstroTerra, et qui sera en fait un Spot 6 et un Spot 7, donc les successeurs qui seront les successeurs de la constellation des satellites Spot.
Donc ça veut dire que Spotimage est majeur ?
Je crois qu'on n'est pas très loin de l'âge adulte. On a fini notre période de croissance et d'ailleurs la société a fêté ses 20 ans en 2005 et les 20 ans du lancement de son premier satellite en 2006. Donc effectivement, je crois qu'on entre dans l'âge adulte.
Dites bonjour aux satellites. C'était Laurent Maggiori, le directeur des opérations chez Spotimage. Micromega et Valérie Cohen. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Avec vous, une expérience originale sur un sens très subtil mais plutôt négligé par la recherche, l'odorat. Et il y aurait une part innée dans nos préférences pour certaines odeurs.
Et oui, et ça paraît surprenant parce qu'on sait que la culture ou l'expérience personnelle influence notre appréciation des odeurs. Tenez Patrick, hein, vous qui êtes, je le sais, un amateur de fromage comme la plupart des Français, eh bien l'odeur du camembert est pour votre muqueuse nasale une délicieuse caresse olfactive. En revanche, un Américain trouvera très certainement que ça sent mauvais. Alors, sans nier cette part acquise ou subjective de nos préférences olfactives, des chercheurs du CNRS se sont demandé s'il n'y avait pas aussi une part innée. Et pour cela, ils ont mené des expériences originales. Anne Robert dirige l'équipe de recherche.
Pour valider cette hypothèse, il fallait qu'on puisse montrer que les souris ont les mêmes préférences que les hommes. Alors, chez l'homme, on propose à des sujets de sentir des odeurs dans des petits flacons librement et on leur demande de dire sur une échelle de 1 à 9 s'ils aiment un peu, beaucoup ou pas du tout cette odeur. Et puis pour la souris, évidemment, il faut faire appel à une mesure comportementale et donc on a très simplement mesuré le temps que passe la souris à explorer la source odorante.
Et ce temps que passe la souris à sentir l'odeur, cela s'appelle le sniff. Et plus une odeur est agréable, plus le sniff sera long. Alors après avoir titillé le museau des souris et des hommes, voici ce qu'ont observé les chercheurs. Anne Robert.
Quand on a classé les odeurs en fonction de leurs préférences chez l'homme, on s'est aperçu que quand on regardait ce que faisaient les souris avec ces mêmes odeurs, elles classaient finalement les odeurs pratiquement dans le même ordre, de sorte qu'on a obtenu une corrélation très forte entre les préférences olfactives chez la souris, c'est-à-dire le temps que la souris explore ces différentes odeurs, et les préférences affichées par les sujets humains. Alors on a fait sentir en fait un jeu d'une vingtaine d'odeurs en deux expériences séparées. Alors on a testé par exemple une odeur qui s'appelle le géraniol, qui est une odeur florale. À l'inverse, on a une autre odeur qui est par exemple le guaiacol, qui est une odeur qui sent un petit peu le brûlé, la fumée, qui était une odeur d'ailleurs que à la fois l'homme et la souris n'ont pas aimé. Mais des odeurs, si vous voulez, des corps purs, qui étaient hors contexte et pas spécialement reliées à une signification pour l'homme ou l'animal. Alors, le fait qu'on observe une corrélation entre les préférences chez l'homme et le temps d'exploration de ces sources odorantes par la souris, donc, nous indique qu'il existe une composante finalement commune, conservée, de ces préférences entre ces deux espèces. Et ça suggère qu'il y a une part innée, en fait, qui détermine ces préférences olfactives.
Donc, il n'y a pas qu'une dimension culturelle hein, dans les préférences pour telle ou telle odeur chez l'homme.
Exactement. Et on a également, dans notre étude, remontré ce qui avait été suggéré par nos collègues américains, qu'il y a bien une corrélation aussi entre ces préférences, qu'elles soient chez l'homme et la souris, et certains aspects donc physico-chimiques de la molécule odorante. Ce vers quoi nous emmènent finalement ces résultats, c'est de pouvoir étudier chez la souris des mécanismes neuronaux, cellulaires, qu'on ne peut pas étudier de la même manière chez l'homme. Donc on va rechercher un petit peu la signature neuronale de cette préférence, en particulier dans des structures chez la souris qui ne sont pas forcément accessibles avec les techniques d'imagerie, par exemple chez l'homme.
Ça ouvre des pistes de recherche fondamentales. Oui. Est-ce qu'on peut envisager des applications de vos conclusions ?
Alors, une conclusion en tout cas qu'on peut faire à partir de ces résultats, c'est que dans une certaine mesure, on peut utiliser la souris pour prédire finalement les préférences chez l'homme. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer que certains panels humains qui sont utilisés pour tester dans l'industrie agroalimentaire certains arômes, par exemple, certaines senteurs, pourraient éventuellement, dans une première étape, peut-être pas jusqu'au bout de la conception d'un produit, pourraient être faits chez la souris, sachant que le comportement de la souris va être prédictif, vraisemblablement, des préférences chez l'homme.
Et qui sait, Patrick, le museau du rongeur remplacera peut-être le nez du parfumeur.
Oh non, pitié, pas tout de suite. Merci Valérie. Micromega, l'actualité scientifique, tous les sens sont sollicités. Vos questions et retours à l'adresse habituelle micromega@rfi.fr. On se retrouve dans quelques instants avec des vampires, des parasites, bref, tout un monde après la synthèse de l'actualité sur RFI.